Bienvenue au Talk, nous sommes avec Éric Woerth ce matin, député LR de l'Oise et qui est aussi le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Éric Woerth, bonsoir. Bonjour.
Bonjour.
Dire bonsoir, non, il est trop tôt. Bonjour. Ce matin, on apprend par la bouche de Renaud Muselier que finalement, il y a une liste qui va ratisser large, si vous me permettez l'expression, en PACA, avec non seulement des LR, évidemment, mais aussi des Agir, qui sont un satellite de la majorité présidentielle, des Modem, des LREM, mais pas de ministre comme Mme Cluzel. Donc ça vous étonne, ça, cette liste ?
Bon, c'est un peu pagailleux. Ouais. C'est ce que, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas ce que souhaite LR.
Ouais.
J'étais au Conseil stratégique, c'était assez clair.
C'était pas prévu. Ministres.
C'était pas du tout ce que souhaitaient les Républicains et Christian Jacob. C'était pas non plus tout à fait ce que souhaitait LREM, si j'ai bien compris. Ils souhaitaient qu'il y ait Mme Cluzel, qu'il y ait
un accord formel.
Et qu'il y ait un accord formel. Bon. Donc, résultat, personne n'a ce qu'il souhaite. Ce qui est, donc, tout le monde a perdu.
C'est votre avis.
Ouais. Ouais, et le Front National, ou le Rassemblement National, mais enfin, c'est à peu près pareil,
ouais.
Se renforce. On le voit dans le sondage que vous
publiez. Ouais. Ce matin.
Ce matin.
Gagne au premier et au deuxième tour.
Ça me semble au premier, au deuxième tour. Et
quelle que soit
la configuration du premier. Donc, c'est évidemment extrêmement inquiétant. Je pense que je ne sais pas ce que fera Renaud Muselier in fine.
Ouais.
On va attendre de voir quand les listes seront déposées. Est-ce que Christian Estrosi sera toujours tête de liste dans les Alpes maritimes ?
Ouais.
Christian Jacob qui dit il faut voir dans une interview également. Bon, tout ça, il y a peu de visibilité dans un moment où il faudrait beaucoup de visibilité. Pas de visibilité sanitaire, très peu, pas de visibilité économique, assez peu. Alors, il n'y a pas de visibilité politique non plus sur des sujets régionaux, on ne parle pas de sujets nationaux, c'est évidemment très inquiétant. Et tout ne peut pas tourner autour du Rassemblement national.
Ouais.
On ne peut pas y avoir un Premier ministre et éventuellement ma propre formation politique qui se renvoie à la figure, le fait de faire monter le Rassemblement
alors que
national.
Vous êtes tous de la même famille politique à l'origine.
L'origine,
si on regarde
oui.
bien. Si on prend M. Muselier et M. Mariani, qui font course en tête quand même en PACA, à eux deux, ils font quelques 70%, ils écraseraient le match.
Ouais. Oui, c'est vrai.
On est donc, est-ce qu'il y a vraiment deux droites irréconciliables
On a été à un moment donné dans la même formation et certains ont choisi, comme Thierry Mariani, d'en partir et d'aller à l'extrême droite.
Et d'autres d'aller vers la majorité présidentielle.
Vers En Marche pour un certain nombre ou de dire qu'il faut des accords. Bien sûr, comme quoi d'ailleurs on a une position centrale.
Oui.
On peut aussi se rassurer de cette façon-là et qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui rassemble cette position centrale. C'est ça qui manque. Et moi, ce que je ne peux pas accepter, qu'on ne parle tout le temps que du Rassemblement national. D'ailleurs, moi-même, je suis en train de le faire, mais pour le dénoncer.
Ouais.
On ne peut pas avoir uniquement des alliances politiques pour faire qu'elles évitent le Front national. À force de voir l'éviter par des moyens politiques, ça ne marche pas. Il faut l'éviter par des moyens de fond, par ce que nous proposons, par nos convictions, par des résultats. Le gouvernement, s'il veut éviter le Front national, il faut qu'il y ait des résultats sur la sécurité. S'il n'y a pas de résultats sur la sécurité, ça ne marchera pas.
– Alors, je vais être assez schématique. Comment, justement, on peut vous différencier, vous, les Républicains, quand on sait que vous avez un discours régalien qui n'est pas si éloigné du Rassemblement national, nouvelle version, et puis un discours économique qui n'est pas si éloigné non plus de La République en marche, si on en croit les premières réformes qui ont été engagées.
– C'est le sujet qu'on traîne depuis longtemps. Comme le président est plutôt centriste, au fond, il y a un moment donné, chacun il voit bien ce qu'il a envie de voir. Et pendant longtemps, au fond jusqu'à Sarkozy, il y avait un patron des Républicains. Mmh. Donc le patron, l'intérêt, c'est qu'il fait la synthèse, quoi. Et que toutes les voix ne sont pas placées au même niveau. Alors qu'aujourd'hui, les Républicains n'ont pas vraiment de patron. C'est pas faire offense à Christian Jacob.
Il ne revendique pas le fait de pouvoir se présenter
candidat à l'élection présidentielle. C'est ça que j'appelle un patron à la veille d'une élection présidentielle. Ça manque beaucoup, parce que toutes les voix s'égalisant, chacun disant des choses parfois différentes, mais c'est vrai dans un grand parti, et c'est assez normal. Il n'y a pas de hiérarchisation des choses, ou d'enchaînement idéologique, programmatique, de convictions, qui permettent d'éclaircir les choses. Donc comme ce n'est pas clair sur les convictions, ce n'est pas clair non plus pour le parti. Au fond, lorsque les partis se désagrègent un peu, La République En Marche n'existe pas localement, territorialement,
oui, on le voit
bien, on le voit à tout moment. LR a bien de difficultés à exister sur le plan national pour les raisons que j'ai indiquées. Quand les partis s'effondrent ou s'effritent comme ça, restent les convictions. Et on doit retrouver, je pense, la parole et la dynamique sur nos propres convictions et sur la base de nos propositions. Et c'est d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi nous, on est tout le temps en train d'obliger de se comparer au Rassemblement national en disant, vous êtes sur la sécurité, vous n'êtes pas loin, alors que vous n'êtes pas loin de LRM là-dessus. Au fond, non, ça veut dire que LRM est plutôt proche de nous en termes économiques, et que si le Rassemblement national dit des choses que nous disons aussi, c'est peut-être eux qui, in fine,
ils sont venus en pickpocket chez vous, en fait. Hein.
En tout cas, il n'y a pas de collaboration possible avec le Rassemblement national.
Ça, vous êtes très clair là-dessus.
C'est une certitude absolue. Diaboliser, dédiaboliser, pas diaboliser, je n'en sais rien, mais il n'y a pas de cela. Tout simplement parce qu'on pense des choses extrêmement différentes sur le fond. On a une vision de la société, une vision de l'homme dans la société, une vision de l'ouverture de la société qui
du rôle de l'État dans l'économie aussi.
Du rôle de l'État dans l'économie. On n'a rien à voir avec tout cela. Et je tiens à le rappeler. Et il faut qu'on tienne là-dessus. Et la plupart des responsables LR tiennent là-dessus et sont sur la même longueur d'onde que celle que je viens
d'indiquer. Vous y aviez songé, vous, à un moment, peut-être, à la présidentielle ?
Bon, comme tout responsable politique, à un moment donné, on y songe et puis on fait le tri dans ses priorités. Et ça demande un tel engagement, de tels sacrifices, c'est aussi une telle exposition médiatique, et pas que médiatique, qui fait que voilà,
c'est pas quelque chose dont j'ai envie,
mais j'ai envie d'y participer, envie d'aider quelqu'un à gagner sur la base des convictions qui sont les miennes. Puis je vais vous dire, quand vous prenez un peu d'âge, ce qui est mon cas, j'ai pas 30 ans, il y a un moment donné, vous devenez de plus en plus, pas inflexible, parce qu'il faut des compromis, mais vous devenez plus exigeant sur les convictions, sur les vraies idées dont on débat, et pas uniquement sur l'idée qui tombe de l'actualité ou du dernier sondage pour faire les choses.
– Alors vous disiez, il manque quelqu'un qui incarne vraiment cette droite, quelqu'un de fort, vous parliez de Nicolas Sarkozy qui était le dernier, est-ce que les régionales vont servir justement à ce départage qu'appelle de ses voeux notamment tous les Républicains, mais notamment le président du Sénat, M. Larcher ?
C'est ce qu'on pouvait espérer. Je ne sais pas si c'est ce qui se passera. En tout cas, certains présidents de région indiquent qu'ils ont envie d'être candidats, au premier titre desquels Xavier Bertrand, qui fait une bonne campagne.
– Vous le soutenez ?
– Oui, je le soutiens de façon très indéfectible.
– Pour les deux…
– Je soutiens à l'élection.
– Les deux échéances ?–
Je ne mélange pas les deux échéances.
– D'accord, je soutiens pour les régionales. –
Évidemment, pour les élections régionales, puis après
vous
on passera… –
Vous êtes élu de l'Oise, donc, des Hauts-de-France.
– Je suis élu de l'Oise, des Hauts-de-France. J'ai été tête de liste sur ces listes dans l'Oise la fois d'avant parce que c'était Marine Le Pen et qu'il fallait combattre le Front National, encore une fois, de façon très claire, très forte et très rassemblée. Je pense qu'il va gagner cette élection. Il va la gagner dans des circonstances bien plus difficiles que l'année qui a 6 ans.
Puisque, parce que la gauche s'était retirée.
En contrepartie, il s'est fait une stature. C'est un vrai président de région, engagé, proche des gens. Enfin, c'est un sans faute à la région. Mais puis il y en a d'autres. Valérie Pécresse.
En Île-de-France.
Une bonne présidente de région. Laurent Wauquiez va gagner, je pense, sa région.
Elle n'a
pas décroché de ses ambitions, je pense, présidentielles. On verra après les élections régionales si le terrain s'obscurcit, se complique, ou si s'il s'éclaircit. S'éclaircir, ça voudrait dire. S'éclaircir, pour moi, s'éclaircir, ça voudrait dire qu'un candidat, il y a d'autres, d'autres qui ne sont pas présidents de région, Michel Barnier, Bruno Retailleau, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a un candidat qui va dominer dans l'opinion publique ? D'ailleurs, par les sondages, voilà, le Figaro va publier un sondage,
sans doute.
Celui de ce matin, pour dire voilà, il y a durablement un décrochage, il y a un candidat qui fait la course en tête, il va gagner l'étape, donc autant s'éviter les primaires. Ce que je ne voudrais pas, et puis si on n'y arrive pas, il y aura un système de départage, comme dit Gérard Larcher, c'est où il faut départager des candidats. Je note quand même qu'il ne faudrait pas avoir une primaire sans la primaire, quoi. Et il ne faudrait pas que, sous prétexte qu'il faut gagner des parts de marché pour essayer de l'emporter sur le tapis, il ne faudrait pas qu'on ait une mauvaise primaire, c'est-à-dire des candidats qui s'opposent de façon plus ou moins violente, plus ou moins larvée, et qui, au fond, concourent à fracturer totalement la famille politique dans laquelle on
est. Un peu comme ce qui s'était passé quand même en 2017.
Ça, c'est un risque. Et on est complètement dans ce risque.
Alors, il y a Jean-François Copé qui disait ça, le drame de la droite, c'est cette descente aux enfers depuis que nos aînés je pense qu'ils pensaient à M. Sarkozy, Fillon, Juppé, ont déclenché une guerre fratricide entre eux qui a conduit au désastre de 2017. Vous êtes d'accord avec ça ?
C'est vrai que cette guerre, elle a été... la droite avait vécu des trucs bien plus difficiles avant. Hein. Chirac, Balladur, il y a eu quand même Maastricht, c'était quand même quelque chose où le RPR disait, d'un côté avec une affiche divisée en deux, grosso modo, oui et non.
Comme le PS, d'ailleurs.
Donc... honnêtement, la vie est une crise, au fond. C'est un bonheur de vivre, donc il faut jouer sur les deux. Je pense qu'il faut faire très, très attention à la primaire qui divise, quoi. Et la primaire d'avant, elle a divisé parce qu'elle a duré trop longtemps.
Et qu'elle était trop ouverte à tout le monde ?
Peut-être trop ouverte. En tout cas, elle a divisé, puisque des candidats, pendant des mois, se sont affrontés sur des plateaux
de télévision,
et dans les journaux. Et que, au fond, François Fillon, qui l'a gagné, n'a pas su, avant les affaires, rassembler l'ensemble autour d'un projet qui aurait pu être un projet plus commun et des fusions d'équipes. Ça s'est beaucoup vu. Enfin, on n'a pas perdu à cause de la primaire. On a perdu à cause d'autres événements très extérieurs à la primaire. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut tout tenter pour qu'il y ait un candidat qui émerge.
Oui.
Et s'il y a une émergence naturelle, tant mieux. Encore faudra-t-il que les autres l'acceptent. Et puis, si personne ne l'accepte, il faudra bien un système.
Compétition.
Ce qui compte, ce n'est pas les partis, au fond. À un moment donné, ce sera ce qu'on voit bien, d'ailleurs. On attend un candidat qui, peut-être, sera en dehors même des Républicains.
Oui.
Ce qui compte, c'est les convictions. C'est pourquoi on a envie d'avoir un candidat crédible à la présidentielle. Et qui peut incarner ? Qui peut être ce candidat, en réalité ? Chacun peut se remettre en cause, aussi, dans cette affaire.
Tout ça doit être prêt à l'automne ?
Ah bah oui. Enfin, on peut toujours dire que c'est le candidat de dernière minute qui l'emporte. C'est quand même assez l'exception.
D'accord.
Le coup d'Emmanuel Macron, on ne le fera pas. D'abord, lui, il n'était pas candidat de dernière minute. Il avait longtemps, je pense, mesuré les choses. Et puis, le coup d'éclat, pas le coup d'État, mais le coup d'éclat, c'est plutôt rare.
D'accord.
Évidemment qu'il faut imprimer dans la société française, à moins d'avoir quelqu'un qui soit adoré, adulé, candidat idéal.
C'est de plus en plus difficile.
Ça n'en prend pas le chemin.
Alors, il y a aussi l'économie, quand même, et vous êtes président de la commission des finances. Est-ce que, d'après vous, on sent qu'il y a un débat à l'intérieur de la majorité présidentielle, est-ce qu'il faudra un deuxième plan pour relancer la machine ?
Moi, j'ai approuvé...
Bruno Le Maire dit non. Hein.
J'ai approuvé toutes les dépenses supplémentaires qu'on a faites, et c'est contraire à l'idée que je me fais de la maîtrise de la dépense publique qui accélère notre indépendance financière. C'est extrêmement important. Donc ça, en temps normal, c'est ce qu'il faut faire, maîtriser la dépense publique. Honnêtement, très peu de gouvernements ont su le faire. Mm-hmm. Donc ce qui est original, c'est pas de le dire, ce qui est original, ce serait de le faire. Et cette originalité, il faut vraiment l'inscrire au cœur de nos convictions. Maintenant, il fallait bien répondre à la crise, donc il y a eu de l'urgence et il y a eu de la relance. Aujourd'hui, la relance, elle a à peu près été engagée en termes financiers à hauteur de 30% des montants votés. Mmh. Moi, je veux bien qu'on annonce tout de suite qu'il y aura un deuxième plan, puis après un troisième plan.
Exécutons le premier.
On n'est pas à bourse ouverte. Si vous avez des projets personnels, si on vous dit t'as aucune contrainte financière Toto, vous allez très très créatif hein, pour vous inventer 1000 choses à acheter. C'est vrai pour un État aussi. On me dit il y a énormément de besoins. Ben, évidemment qu'il y a énormément de besoins, mais la question n'est pas de savoir. La question c'est de choisir quelles sont les priorités. Donc il faut d'abord évaluer l'impact des mesures d'urgence et de relance. Qui ont été, puisque l'un et l'autre se chevauchent, mesures de relance qui ont été votées il y a quelques mois, il faut consommer les crédits, et s'il faut aller plus loin, s'il est possible d'aller plus loin, si c'est nécessaire pour développer le potentiel de croissance du pays, parce que l'idée là, c'est quand je développe le potentiel de croissance du pays, quand la croissance elle est durablement plus importante avant, après Covid qu'avant Covid, eh ben, il faudra y réfléchir. Enfin, faisons déjà ce qui a été écrit. Cette idée de course en avant sur le plan financier, alors c'est formidable, hein, mais juste à un moment donné, certains devront payer, et puis il ne faudrait pas se tromper non plus. Si ces dépenses n'ont pas d'impact particulier, pour relancer la croissance, pour accélérer les transitions nécessaires sur le plan écologique comme sur le plan numérique, alors honnêtement, on aura perdu beaucoup de temps.
– Est-ce que vous partagez l'optimisme qu'on perçoit à Bercy, aussi bien chez M. Dussopt que chez M. Le Maire, pour dire que ça risque de repartir très fort quand même.
– Oui, je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison parce que ça s'est vu. En fait, ça s'est vu l'année dernière et ça s'est vu au dernier trimestre. Donc je pense que Je pense qu'on est tombé tellement bas, pour tout vous dire, qu'on remonte nécessairement assez bien. Alors, on pourra toujours dire que la France, il y a très longtemps qu'elle n'a pas eu un taux de croissance de cette nature. Sauf que, évidemment, il y a eu un taux de récession extrêmement bas. Et puis, on parle d'un État qui était déjà profondément endetté et profondément déficitaire. Bon, il faut évidemment tout faire et faire en sorte que ce rebond il soit formidable et qu'on ait dans... Mais il est surtout extrêmement différent selon les secteurs, très très différent. Il y a des gens qui vont très 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 bien, il y a des gens qui vont très 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 mal. Donc il faut aussi faire très attention à tous ceux qui vont très mal. Et puis il faut capitaliser les entreprises. Les entreprises, elles sont très endettées, comme l'État est endetté, en endettement net, les entreprises sont très endettées. Donc il faut marier politique budgétaire et politique monétaire, et tout ça dans un environnement contraint. Et puis il faut avoir une vision européenne. Si on n'a pas une vision européenne, et l'Europe a fait plutôt des progrès, contrairement à ce qu'on dit, durant la crise, à ce moment-là, on continuera à être un petit pays dans une union brinque-ballante par rapport à des mastodontes qui tireront leur marron du feu. Ça, ce n'est pas acceptable, et il n'y a pas de fatalité à ça.
On est avec Éric Woerth ce matin, le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, et on continue avec vos questions qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
Bonjour Yves, bonjour Éric Woerth.
Bonjour.
On commence avec Antimac. Antimac sur le Figaro qui vous demande « Ne croyez-vous pas que les Républicains soient en train de perdre leur crédibilité en changeant de position tous les trois jours ?»
Alors, peut-être pas tous les trois jours. Non, en réalité, les Républicains n'ont pas changé au niveau national, n'ont pas changé de position. Pourtant, moi, j'essaie de regarder les choses la plus objectivement possible. Il y a eu l'idée de liste régionale avec des Républicains et pas d'accord avec la majorité nationale. Nous sommes dans l'opposition. Il faut aussi que les électeurs y voient clair, au fond. Alors, localement, qu'il y ait des accords. Sur le plan départemental, dans un canton, ça se voit un peu moins, c'est pas très clair, il y a tellement de proximité locale qui explique, et tellement d'humanisation. C'est des candidats qui se connaissent. Mais sur le plan régional, on est dans l'antichambre de la politique nationale, là, donc ça a des conséquences évidemment très fortes. Et évidemment, ce qui s'est passé, et en réalité, je pense qu'il aurait pu se passer grosso modo la même chose dans PACA, dans des conditions très différentes, des conditions de forme différentes.
C'est le Premier ministre,
problème d'annonce, problème de forme. Peut-être la présence d'un secrétaire d'État. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué à expliquer, un tout petit peu plus compliqué à expliquer. Mais bon, vous savez, la crédibilité, il a raison, votre auditeur, elle se prouve. Et moi, je crois à la crédibilité des convictions et des propositions. Donc, à un moment donné, au-delà des trucs d'appareil politique, comme on dit, de la tactique, il y a la stratégie. La stratégie, au fond, elle doit être quand même une stratégie pour le pays. Et ça, on verra ça au moment de l'élection présidentielle.
Autre question.
Le pass sanitaire a été voté dans un second vote cette nuit à l'Assemblée nationale, vers 1h30 du matin. Que vous inspire la manœuvre d'En Marche, vous demande Émilie.
De quoi ?
La manœuvre du second vote au bout de la nuit, alors qu'il n'y avait plus beaucoup de députés.
Mais c'est normal, tout gouvernement fait des deuxièmes délibérations, comme on dit, appelle un deuxième vote quand il était battu une fois. Quoi. Il n'a pas vu qu'il allait être battu.
Vous étiez d'accord avec la Modem, qui fait partie de la majorité, pour dire que ce pass...
Moi, je suis d'accord sur le pass sanitaire. Oui. Je n'ai aucun problème avec ça, d'autant plus que si vous n'avez pas été vacciné, parce que ça pourrait créer de l'inégalité, si vous n'avez pas pu être vacciné, vous avez la possibilité d'avoir un test, etc. Donc évidemment qu'il faut un pass sanitaire. Je veux dire, tous ceux qui disent non...
Pas dans les restaurants.
C'est une drôle d'idée. Oui, pas dans les restaurants. On aurait pu y réfléchir. Hein. Ouais. On aurait pu se dire que pour que les restaurants démarrent un peu plus vite et n'aient pas des jauges ridicules qui les empêchent de pouvoir fonctionner, qu'on prenne d'abord des gens qui sont en sécurité sanitaire pour eux et pour les autres.
D'accord.
On aurait pu y réfléchir intelligemment, de façon consensuelle, pour faire en sorte que l'économie repart et que ceux qui sont fermés puissent repartir dans de bonnes conditions. Mais ça ne valait que si, évidemment, la vaccination était probablement plus rapide, plus forte que le rythme d'aujourd'hui. Donc, deuxième délibération, ce n'est pas un problème. Simplement, la majorité, elle aurait dû un peu discuter avec une des composantes de sa majorité, qui est le Modem. Quoi. Mmh. Le Modem est un parti qui a ses propres convictions, qui fait partie clairement de la majorité, qui n'a pas été entendu, si j'ai bien compris. Hein, c'est des affaires internes à la majorité. Mmh. Enfin, ça ne change pas, hein, quel que soit, qu'on soit à gauche, à droite ou avec LREM. C'est la même histoire. C'est pour ça que le Nouveau Monde en a pris plein la figure, en réalité.
Qui ressemble bougrement ou à l'ancien.
Mais parce que c'est les réflexes humains. C'est contester l'idée qu'au fond, la politique, c'est des hommes, c'est de la vie, et donc il n'y a pas une nouvelle vie, une ancienne vie. Il y a des réflexes. Il faut juste tenter de les combattre. Et là, c'est le symptôme d'un manque de concertation. Et je trouve que la concertation, elle peut s'entendre, elle peut s'étendre aussi à LR. Quand LR dit, à juste titre, nos orateurs l'ont très très bien dit, qu'il ne peut pas y avoir, qu'on ne peut pas voter comme ça des mesures liberticides, liberticides pour de bonnes raisons, je ne remets pas en cause, exceptionnelles, en laissant 2 mois, 3 mois au gouvernement. C'est normal que le Parlement puisse revenir au moins tous les mois là-dessus. C'est au fond là. Et qu'est-ce que ça peut faire au gouvernement de revenir tous les mois là-dessus? Qu'il y a un débat supplémentaire, une demi-journée, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, je pense que là-dessus, il y a beaucoup trop de verrous.
Autre question.
On change complètement de sujet. Sur la réforme des retraites, la Miche fait remarquer sur lefigaro.fr qu'il faudrait aligner les conditions de retraite du public sur celles du privé. Y seriez-vous favorable?
C'est à peu près le cas quand même, en dehors des régimes spéciaux. Mais c'est en dehors des régimes spéciaux, qui ne sont pas rien, qui ne sont pas nécessairement des régimes de fonction publique. C'est grosso modo le même niveau de retraite, notamment pour les personnes qui ont des revenus moyens. Et c'est la même durée de cotisation et c'est le même âge de départ à la retraite. Donc ça a été, il y a eu beaucoup de convergences. Alors tout n'est pas... ils payent aussi à peu près le même prix, leur retraite, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Donc il y a encore évidemment des éléments d'injustice, surtout sur les régimes spéciaux. Mais il y a eu une tentative de nouvelle réforme des retraites, parce que c'est en fait des réformes en continu.
Ouais.
C'est la vie, donc tous les 10 ans, il faut revoir comment sont passées les choses. C'est normal dans le domaine de la répartition. Et il y avait des nouveaux progrès à faire. Alors là, le gouvernement a complètement loupé son truc, quoi. Avec un projet de loi sur la réforme des retraites qui était incompréhensible. Mais honnêtement, objectivement, vous ne saviez pas vous projeter dans ce projet de loi. Vous ne saviez pas à quel âge vous alliez partir, avec combien, dans quelles conditions. Donc c'était pas possible. Vous pouvez pas démocratiquement avoir des projets auxquels personne ne comprend rien. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut remettre.
Ça sera un grand dossier de quinquennat à venir.
Oui, mais ça devrait être le dossier de ce quinquennat encore. Note que Bruno Le Maire le demande lui-même. Honnêtement, il faut juste considérer qu'il y a des professions qui ne vivent pas de la même manière. Donc la retraite ne peut pas être exactement la même.
Ouais.
Il y a la pénibilité, mais c'est nous qui avons intégré, c'est la droite, c'est moi-même qui avons intégré la pénibilité dans un projet de loi retraite. Il faut pousser les choses un peu plus loin. Il faut prolonger l'âge et garder des catégories de Français dans des systèmes de retraite différents entre les libéraux, la fonction publique et puis les salariés du privé, avec évidemment des passages plus pratiques entre les uns et les autres. Et on arriverait à l'idée comme cela d'un régime assez universel, avec des éléments d'universalité et des éléments d'individualisation, parce que les métiers ne sont pas les mêmes.
– Dernière question, Sacha.
– Alors, quel est votre sentiment sur la primaire de droite, sur le modèle proposé par Bruno Retailleau, c'est-à-dire un tour avec un vote préférentiel, vous demande Sylvie.
– Alors, moi, je ne suis pas rentré dans les détails d'une primaire, on verra ce que proposera Gérard Larcher, que des
c'est
candidats
lui qui doit décider.
Et leurs préférences. Bon, c'est lui qui est le plus en avant, c'est un homme de concertation, il a une expérience politique que nul ne peut contester, non, et une sagesse aussi, pas que sage d'ailleurs, il est aussi assez
volontaire,
il sait dire les choses, donc je pense qu'il faut regarder. En tout cas, ça ne peut pas être reclus au niveau des membres des Républicains ou uniquement des sympathisants. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas être uniquement une affaire non plus d'élus. Donc il y a un électorat à trouver qui n'est pas si simple que cela. Pour qu'il y ait une légitimité, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui votent. Et comme les candidats auront des opinions différentes parce qu'ils ont des points forts qui sont aussi différents et qui ne correspondent pas aux mêmes électorats, donc je fais toute confiance à Gérard Larcher pour trouver une solution si c'est nécessaire.
C'est entre ses mains. Merci Éric Woerth, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, aux questions des internautes, qui étaient posées ce matin par Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et puis maintenant, eh bien, un lundi, et je vous souhaite un bon week-end prolongé, si vous pouvez en profiter.